Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez déjà envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pilis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 7 de Saint Jean sur le polycopier qui contient les chapitres, les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 6 à 10 de Saint Jean, nous en sommes à la page 12. Donc nous commençons par les versets 1 à 8 de Saint Jean, chapitre 7. Voilà le texte. Après cela, Jésus parcourut la Galilée car il ne voulait pas aller en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, dite des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, partez d'ici et allez en Judée parce que vos disciples voient. Afin que vos disciples voient aussi les œuvres que vous faites. Car personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à paraître. Si vous faites ces choses, manifestez-vous au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait, parce que je rends en lui, de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à cette fête? Et moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. On peut s'étonner de ces paroles de notre Seigneur. Son temps n'est pas accompli. Il faut que les gens soient, le peuple soit préparé à recevoir le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ c'est une objection qu'on a fait souvent contre lui en disant pourquoi est-ce que notre Seigneur n'a pas annoncé son message tout à fait au début? Pourquoi n'est-il pas apparu déjà immédiatement après le péché originel? Cela évitait bien des problèmes. Eh bien, il fallait que les gens se rendent compte de l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ vient, je dirais, au premier claquement de doigts des fidèles, les gens ne comprennent pas très bien la raison de sa venue. C'est justement lorsque les choses se sont empirées que les gens se rendent compte à quel point on a besoin du médecin. S'il y a peu de gens qui sont malades, les gens ne comprennent pas l'importance du médecin ou du médicament pour soigner la maladie en question. Si au contraire, les gens sont vraiment malades depuis très longtemps, les gens commencent à mourir comme des mouches, l'épidémie se répand partout, à ce moment-là, les gens ont vraiment besoin du médecin, se rendent compte qu'ils ont besoin non seulement du médecin, mais du physicien, ils ont non seulement besoin du médicament, mais également du médecin capable d'inoculer ce médicament pour sauver les gens. Et donc, notre Seigneur va attendre pour que sa venue soit davantage, non pas acceptée, mais que le lien entre le péché et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ soit compris. Et c'est pas le cas. On voit très bien que même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu à peu près 7000 ans après le péché originel, eh bien, les Juifs ont encore le rejeté. Donc, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Et notre Seigneur faisait paraître en lui tour à tour les caractères de sa divinité et de son humanité. Et donc, c'est cette union, si vous voulez, entre sa divinité et son humanité qui va provoquer cette haine. C'est le verset 7. « Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Donc, c'est pas trop l'humanité qui gêne, c'est cette union entre l'humanité et la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié par les Juifs parce qu'il prétendait être Dieu. Tant qu'il ne prétendait être comme, cela gênait pas les gens. J'ai déjà souvent parlé de ça lorsque je commente. Je l'ai fait plusieurs fois en sermon, en conférence privée, ou d'autres conférences. Lorsque je commente la prophétie du début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, le vieillard Siméon qui reçoit l'enfant Jésus au moment de la visite au temple, qui va faire cette annonce que cet enfant sera un signe pour en contradiction, un signe de contradiction devant le monde. Il va être celui qui va apporter la haine. Je ne suis pas venu apporter la paix et la joie de notre Seigneur. Il est venu apporter la haine. Et c'est pour ça ici qu'il parle de haine. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? C'est très important à comprendre. Il faut comprendre cette partie-là pour comprendre ce début du chapitre 7 de Saint Jean. Notre Seigneur est un signe de contradiction, non pas parce qu'il prétend être Dieu, mais parce qu'il prétend être l'unique vrai Dieu. De même que l'Église catholique n'est pas un signe de contradiction parce qu'elle prétend être divine. Il y a des tas d'églises qui prétendent être divines aujourd'hui, des tas de fausses églises qui prétendent être divines. Mais l'Église catholique est un signe de contradiction devant le monde parce que l'Église catholique prétend, avec raison, être l'unique véritable Église. Or, de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est la même chose pour nous. Beaucoup de gens m'en parlent en me disant, mais monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que les catholiques sont tellement persécutés dans le monde moderne? Mais précisément parce que nous sommes les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église catholique, c'est le corps mystique du Christ, et de même que notre Seigneur Jésus-Christ a été haï par le monde, parce qu'il rendait témoignage que les œuvres du monde étaient mauvaises, de la même façon, les membres de cette Église seront aussi persécutés. Et si vous n'êtes pas persécutés par le monde, c'est bien un signe que vous n'êtes pas du monde. On le voit très bien actuellement, si Bergoglio est tellement encensé dans le monde moderne, c'est possiblement parce qu'il a, lui et le monde ont exactement les mêmes idées. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui présentait à la fois donc les caractères de la divinité et de l'humanité, fuyait ses persécuteurs en tant qu'homme, et il se manifestait à eux comme Dieu, puisqu'il était à la fois l'un et l'autre. Donc il ne faut pas oublier quand notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de cette double nature, il y avait une double intelligence, une double volonté. Il y avait une intelligence divine, une intelligence humaine, une volonté divine, une volonté humaine en lui. C'est l'hérésie monophysite, l'hérésie monothéliste, ces deux hérésies des débuts de l'histoire de l'Église qui refusaient cette double intelligence et cette double volonté en Dieu. Donc il y avait bien une intelligence divine, une intelligence humaine, mais l'intelligence humaine était évidemment parfaitement soumise à l'intelligence divine. De même, la volonté humaine de notre Seigneur était parfaitement soumise à la volonté divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus veut, disent les pères, au contraire, frayer par l'humilité le chemin qui conduit à la gloire. Donc il y a en lui, comme disent les pères, à la fois le caractère de sa divinité et de son humanité, mais il va cacher sa divinité. Il est toujours Dieu. Même lorsqu'il meurt sur la croix le vendredi saint dans les souffrances abominables, il est toujours Dieu, attention, mais il va cacher, il va, ici j'aime beaucoup l'expression des pères, Jésus veut frayer par l'humanité le chemin qui conduit à la gloire. Donc il va en quelque sorte présenter le chemin qui mène à la gloire de Dieu, le paradis c'est la gloire de Dieu, par la vertu d'humilité. Il leur dit donc, mon temps, c'est-à-dire le temps de ma gloire où je viendrai juger le monde avec majesté, n'est pas encore venu, mais votre temps, c'est-à-dire le temps de la gloire du monde, est toujours prêt. Donc, pour pouvoir accepter le message de notre Seigneur Jésus-Christ, il va falloir que le monde se débarrasse de la gloire mondaine pour accepter la gloire divine, accepter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, va précisément demander à ce que cette gloire mondaine soit mise dans la poche avec le mouchoir par-dessus, que le monde va commencer à se rebeller et à persécuter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne veulent pas remplacer leur gloire humaine par la gloire divine. On le voit très très bien aujourd'hui dans le monde moderne. Vous voyez, il y a cette espèce de dualité entre, d'une part, l'Église catholique qui prêche notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, l'Église catholique et les familles catholiques qui veulent que dans leur maison règne notre Seigneur Jésus-Christ pour que les gens puissent se mouvoir dans le bien, selon l'expression de Léon XIII qui définissait ainsi la liberté, alors qu'en face, le gouvernement français, c'est clair et net aujourd'hui, veut que la civilisation dans laquelle les gens sont obligés de vivre rende la possibilité de se mouvoir dans le bien possible. Pour que le monde soit tellement entouré, saturé, surchargé de vices, qu'il respire ce vice par tous les pores de la peau et qu'il ne puisse plus se mouvoir dans le bien. Or, se mouvoir dans le bien est nécessaire pour être en état de grâce. Si je ne peux pas me mouvoir dans le bien, qu'est-ce qui va se passer? Ne pouvant pas me mouvoir dans le bien, eh bien, je vais être obligé de me mouvoir dans le mal. Si je me meus dans le mal, évidemment, eh bien, je vais perdre l'état de grâce et je vais me damner. C'est ce que veut le gouvernement français. C'est clair et net. Le gouvernement français veut la damnation de tous les hommes. Ils prétendent ne pas croire à une vie après la mort. En fait, c'est faux. Ils y croient parfaitement. Parce que s'ils n'y croyaient pas, ils ne chercheraient pas à faire vivre les gens dans le péché mortel. C'est à tel point que de plus en plus de jeunes qui, je crois, sont de bonne volonté, me disent, j'ai entendu souvent cette remarque de jeunes qui disent, Monsieur l'abbé, on vit dans un monde tel qui, n'arrivons plus à vivre en état de grâce, parce que même si on se confesse régulièrement, même si on prie le chapelet tous les jours, on a énormément de difficultés parce qu'on vit dans une atmosphère sursaturée de vices. Rappelez-vous la phrase des francs-maçons du 19e qui disait bien, les textes avaient été publiés par le pape Pie IX, qui disait bien, il faut que les gens, encore une fois, respirent le vice par tous les pores de la peau pour qu'ils ne puissent plus être décontaminés de ce vice. Puisque nous sommes le corps du Seigneur, lorsque les partisans du monde nous insultent, répondons-leur, votre temps est toujours prêt, notre temps n'est pas encore arrivé. Notre patrie est sur les hauteurs, le chemin qui nous y conduit est humble. Celui qui refuse de suivre le chemin s'en vient en vain qu'il cherche la patrie. Donc on voit très bien ici donc cette double de même qu'il y a une double nature en notre Seigneur Jésus-Christ, divinité, humanité, il y a en face de l'Église catholique qui continue la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a le monde moderne qui veut garder sa gloire et ne pas céder sa gloire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, on a face à face, ici c'est bien clair dans ce texte que je viens de vous citer de Saint Jean, on a un double monde, le monde qui veut suivre la loi des droits de l'homme, qui veut la loi des droits de l'homme, face au monde qui veut la loi des droits de Dieu. Le problème, c'est que ceux qui veulent la victoire des droits de Dieu, représente un tout petit groupe, alors que, hélas, tous ceux qui veulent suivre la loi des droits de l'homme, c'est-à-dire la loi de l'orgueil, de l'égoïsme, des honneurs, des richesses, eh bien, représentent le plus grand nombre. C'est bien pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'une voie large et d'une voie étroite. Donc, j'ai parlé un petit peu de tout ça. Mon dernier sermon, donc pour ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, vous pouvez écouter éventuellement sur la chaîne Dame Marie ou sur la chaîne YouTube, le dernier sermon que j'ai donné pour la fête du premier dimanche de la Passion. Donc j'ai parlé justement un petit peu de tout ça. Donc il y a cette haine, notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre, que cette haine contre lui va disparaître avec le temps. Non, mon temps n'est pas encore venu parce que votre temps à vous est toujours prêt, parce que votre temps à vous, c'est-à-dire le temps du monde, est un temps basé sur la liberté, l'égalité, la fraternité, alors que mon temps, c'est-à-dire le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, est basé sur la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Et les hommes se cramponnent à ce temps dans lequel ils vivent, à ce monde dans lequel ils vivent, basé encore une fois sur l'orgueil, surtout les trois points, l'égoïsme, l'orgueil, les honneurs, on peut rajouter les richesses, bon, en gros l'orgueil et l'égoïsme c'est un peu la même chose, l'orgueil, les honneurs, les richesses, ils s'accrochent à ça parce qu'ils ne veulent, ils se rendent très bien compte qu'il y a une incompatibilité. C'est ça le drame. Le drame, il est là, c'est que je suis... je prends un petit peu les gens en disant ça, mais je crois vraiment que les dirigeants qui nous dirigent en France, qui nous mènent en France par le bout du nez, croient en Dieu. C'est pour ça qu'ils luttent contre lui. On ne lutte pas contre quelqu'un qui n'existe pas. Il est évident que Macron et ses petits copains en France ont une haine de Dieu. Mais on n'a pas une haine d'une personne qui n'existe pas. Le simple fait que Macron et ses petits copains aient une telle haine de Dieu prouve qu'ils croient en Dieu. Rappelez-vous, je donne souvent ça comme exemple, rappelez-vous la réflexion de Martin Luther. Martin Luther qui vivait avec sa concubine, Catherine Bora, qu'il avait tirée d'un couvent, une ancienne religieuse. Martin Luther, qui était prêtre, attention, il est toujours prêtre au fond de l'enfer, il est prêtre, il a un caractère sacerdotal. Et Martin Luther regardait avec Catherine Bora, en mois d'août, regardait par la fenêtre en soirée, une belle nuit, avec des étoiles magnifiques sur la voûte céleste, et Catherine lui a dit, regarde Martin, regarde cette belle nuit extraordinaire, le paradis doit être comme ça. Et Martin Luther l'a coupé net en lui disant, parle pas de ça, c'est pas pour nous. Alors Catherine Bora lui a dit, Mais alors, c'est quand on s'est trompé. Si on s'est trompé, il faut faire amende honorable et revenir en arrière. Il a répondu, c'est trop tard, le char est trop embourbé. Donc Martin Luther savait que Dieu existait. Martin Luther savait que l'Église catholique était la véritable Église. C'est pour ça qu'il était contre elle. De la même façon, aujourd'hui, nos gouvernants savent très bien que Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'ils cherchent, ils s'accrochent, si vous voulez, à ce monde, à la gloire du monde, comme si cette gloire du monde était éternelle, alors qu'ils savent très bien que ce monde va passer. Ils s'accrochent à ce monde parce qu'ils savent que le jour où ils vont devoir se décrocher du monde moderne, le jour où ils vont mourir, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tous mourir un jour, eh bien ils vont tomber sous le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vont devoir passer de la gloire du monde au jugement par celui qui présente la gloire de Dieu. Car la gloire du monde va passer, puis un jour ils vont devoir se décrocher de cette gloire du monde, et là ils vont faire face à notre Seigneur Jésus-Christ, et que là ils vont entendre cette parole terrible s'ils ne se convertissent pas avant, éloignez-vous de moi maudit et allez au feu éternel. C'est exactement ce qui va se passer s'ils ne se convertissent pas. Oui, je pense qu'il faut méditer un petit peu cette phrase le Père insiste, moi il me hait. Le monde ne peut voir, mais moi il me hait parce que je rends en lui le témoignage que ce monde est mauvais, que les œuvres du monde sont mauvaises. Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours prêt. Mon temps n'est pas encore venu, c'est le temps de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu, sous-entendu, il va arriver un jour, et ce temps c'est la gloire du bon Dieu, la gloire céleste. C'est le temps de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Marie l'a également dit, à la fin, mon cœur immaculé qu'on triomphera. Elle l'a dit à la fin, pas tout de suite. Donc il ne faut pas se décourager. Souvent, les gens me le disent, mais monsieur l'abbé, c'est très décourageant parce que nous, on est obligé de tout lâcher pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et en face, ils ont tout. Ils ont tous les biens matériels. Tout leur réussit, nous plus rien ne nous réussit. Regardez le nombre de gens qui suivent la voie humainement royale de liberté, d'égalité, de fraternité, alors que nous qui suivons la vraie voie royale de pauvreté, de chasteté, de l'obéissance, on n'a rien, humainement parlant. Mais attention, le temps ici-bas sur la terre est un temps très court par rapport au temps de l'éternité. Et on comprendra ces choses le jour où on mourra. Le jour où on meurt, si on est en état de grâce, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa gloire en commençant par nous dire « Venez, les bénis de mon Père ». C'est le jugement, pas seulement le jugement particulier, mais c'est le jugement général à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura cette division entre les boucles, les mauvais d'un côté, les brebis de l'autre, et notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, manifestera sa gloire, mais cette fois-ci, son temps sera arrivé. Mon temps n'est pas encore venu, votre temps, lui, est toujours prêt ici-bas, mais au moment du jugement général, à la fin des temps, le temps, notre Seigneur Jésus-Christ sera venu, et le monde sera obligé de reconnaître la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons au deuxième groupe de versets, verset 9. Attendez que je dise pas bêtise, c'est ça. Versets 9 à 13. Du chapitre 7 de Saint Jean. Après avoir dit cela, Jésus demeura en Galilée. Mais lorsque ses frères furent partis, il monta lui aussi à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Et les Juifs le cherchaient donc pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait une grande rumeur dans la foule à son sujet, car les uns disaient, c'est un homme de bien, les autres disaient, non, mais il séduit les foules. Cependant, personne ne parlait de lui publiquement par crainte des Juifs. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères, c'est la page 13, donc sur le polycopier. Dans le sens mystique, disent les pères, nous voyons ici que pendant que les hommes charnels cherchent avec empressement la gloire humaine, le Seigneur reste dans la qualité, la Galilée, dont le nom signifie transmigration. C'est-à-dire qu'il demeure dans ses membres qui passent des vices aux vertus et font des grands progrès dans la perfection. Donc ici, on voit encore qu'il y a ce mur impassable, je dirais littéralement, entre ceux qui ont choisi d'adorer le faux Dieu, le monde, et ceux qui ont choisi d'adorer le véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes charnels d'un côté, qui recherchent la gloire humaine, et les hommes divinisés en quelque sorte par la gloire, par la grâce, qui recherchent avec empressement la gloire divine. On ne peut pas à la fois avoir dans son cœur la gloire humaine et la gloire divine, il faut faire un choix. Et donc il y a un passage entre les deux. Alors actuellement, ici-bas sur la terre, ce passage est encore ouvert. Il peut y avoir des gens qui vont passer, si c'est l'allusion des pères, il peut y avoir des gens qui vont passer des vices aux vertus, qui vont se convertir et qui vont devenir des membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce pont peut être utilisé dans les deux sens. Attention, faut pas oublier ça. Un pont au-dessus d'une rivière peut être utilisé de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite. Et donc le pont entre les deux mondes peut aussi être utilisé par des gens qui sont fatigués de pratiquer les vertus, qui veulent repasser à la vie du vice et qui veulent repasser de l'esprit du monde, de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ à l'esprit du monde. Mais d'avoir les deux esprits dans son âme, c'est absolument impossible. Et c'est ça l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, c'est quoi? L'Église de Vatican II, c'est une Église qui veut à la fois plaire au monde et à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup de catholiques, hélas, sont comme ça. Catholique libéral, c'est quoi? Catholique libéral, c'est quelqu'un qui veut donner les mêmes droits aux pauvres. Donc, le dimanche de 10h à midi, je suis notre Seigneur Jésus-Christ, et j'adore notre Seigneur Jésus-Christ avec la pratique des vertus, puis pendant la semaine, je pratique les vices. Et il y a ce pont qui existe toujours, mais sachant que ce pont n'est pas éternel. Parce qu'au moment où on passe de ce monde à l'autre, dire au moment où on passe du temps à l'éternité, la mort c'est ça, la mort c'est le passage du temps à l'éternité, c'est autre chose. Au moment où on passe du temps à l'éternité, ce pont va s'écrouler littéralement et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de moyen de passer de l'église qui pratique les vices à l'église qui pratique les vertus. De l'église du monde qui adore un homme qui se prend pour Dieu, en face avec l'Église de Dieu qui adore Dieu fait homme pour nous. Alors le Seigneur se rend lui-même à Jérusalem parce que les membres du Christ cherchent non pas la gloire de cette vie, mais celle de la vie éternelle. Mais on voit encore ici dans ce texte des Pères cette opposition sur laquelle ils insistent lourdement, la gloire de la vie contre la vie éternelle. La gloire des gens du monde contre la gloire des gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous le texte que je viens de vous citer au début de ce chapitre 7 de Saint Jean. Mon temps n'est pas encore venu, c'est-à-dire le temps de ma gloire, où notre Seigneur Jésus-Christ va venir juger le monde avec majesté. Mais votre temps est toujours prêt. Le deuxième temps dont il parle, c'est le temps des hommes, la gloire du monde. Le temps des hommes est un temps temporel qui, par définition, ne dure pas. Puisque la mort, encore une fois, c'est le passage du temps à l'éternité. Donc, tant qu'il y a du temps, il y a cette possibilité de passer, de vivre, rester dans le vice, de passer des vertus au vice. Mais une fois qu'on est passé dans l'éternité après la mort, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'usage de notre liberté. Et n'étant plus dans le temps, mais dans l'éternité, on ne peut plus changer. On dit que le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. Mais une fois qu'on est dans l'éternité, par définition, il n'y a plus de temps. L'éternité, c'est l'absence de temps. Donc, étant l'absence de temps, l'éternité interdit le passage de la puissance à l'acte. Donc, celui qui passe dans l'éternité reste dans l'éternité sans jamais changer. Il n'y a plus de changement après l'éternité. Bon, une fois qu'on est dans l'éternité, la seule exception, c'est le purgatoire. Alors là, il peut y avoir un changement, mais le purgatoire est une exception. Quand on meurt, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Les différentes possibilités, les différents casiers dans lesquels on peut littéralement tomber. Il y a l'enfer, pour ceux qui meurent en état de péché mortel. Il y a le purgatoire, pour ceux qui... D'abord, il y a le paradis, pour ceux qui meurent en état de grâce, sans avoir de purification à achever, parce qu'ils sont déjà purifiés si bas sur la terre. Il y a ceux qui n'ont pas de péché personnel et qui n'ont pas la grâce du baptême qui vont dans les limbes. Donc, trois cas. Enfer, paradis, limbe. Et puis, il y a l'exception du purgatoire pour ceux qui meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas encore eu le temps de se purifier suffisamment lors de leur passage sur la terre. Donc, ils vont dans le purgatoire. Alors, l'enfer est hors du temps, dans l'éternité. Le paradis, c'est hors du temps, c'est dans l'éternité. Donc, une fois qu'on est en enfer, on ne peut plus changer. Une fois qu'on est en éternité du paradis, on ne peut plus changer non plus. Le purgatoire est dans le temps. Donc, une âme qui va souffrir dans le purgatoire, il va pour un temps limité. Par définition, on va un jour en sortir pour passer dans l'éternité heureuse, au paradis. Et l'exception, c'est le dernier cas, c'est le cas des limbes pour les enfants morts sans baptême. Qui est dans l'éternité. Les limbes sont également éternelles. Alors, j'utilise le mot éternel dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire, strictement parlant, on parle de l'éternité des flammes de l'enfer, l'éternité des peines, de l'absence de Dieu dans les limbes, mais c'est une façon de parler, parce que Dieu seul est éternel. L'enfer n'est pas éternel, dans le sens que l'enfer a commencé, l'enfer a été créé au moment de la prévarication des anges. Donc l'enfer n'a pas toujours existé. Les limbes, pareil, n'ont pas toujours existé. Les limbes sont un lieu très mystérieux sur lequel on a peu de renseignements. Cependant, attention, l'Église a toujours enseigné l'existence des limbes. L'existence des limbes gêne énormément les gens modernes. J'ai remarqué que c'est une des... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ça souvent en discutant avec des modernistes, que les limbes est certainement un des points de doctrine qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils sont beaucoup de modernistes vont être obligés en quelque sorte de supporter un peu le mot enfer, parce que notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé 63 fois. Bon, il a parlé 63 fois de la gêne éternelle. Bon, c'est un peu gênant quand même pour un moderniste qui connaît un peu les Écritures, de nier l'existence de l'enfer. Par contre, l'existence des limbes, comme le mot n'est pas dans l'Écriture, ils vont pousser hurlement. C'est impossible, c'est contre la miséricorde de Dieu, c'est contre la grandeur, la magnificence de Dieu. Et pourtant, les limbes existent, attention. Voilà pourquoi il faut baptiser les bébés le plus vite possible. Hein. C'est pour ça que l'Église catholique enseigne que un père de famille, un chef de famille, ou une mère de famille, qui attend plus d'un mois avant de baptiser un enfant, volontairement, alors qu'il n'y a pas de raison proportionnée pour cette attente, commet une faute grave. Attention. Donc le Seigneur se rend lui-même à Jérusalem, en haut de la page 13, parce que les membres du Christ cherchent non pas la gloire de cette vie, mais celle de la vie éternelle. Mais il s'y rend en secret, parce que toute sa gloire vient de l'intérieur. c'est-à-dire d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. C'est-à-dire toute la gloire de Dieu vient de l'état de grâce. L'état de grâce n'étant rien d'autre que une petite participation au paradis. Une âme en état de grâce, c'est déjà un bout de paradis dans cette âme. Pourquoi ? Parce que toute la gloire vient de l'intérieur. La gloire vient de l'intérieur de notre âme, si cette gloire existe par l'état de grâce. Donc, une âme en état de grâce, c'est une âme qui a en elle le paradis de façon temporaire, pas de façon éternelle, pas de façon définitive. Pour avoir le paradis de façon définitive, il faut être au ciel. Ce n'est pas encore le cas, puisque malheureusement, on peut ici-bas perdre la grâce sanctifiante, perdre l'état de grâce par le péché grave. C'est un texte de saint Augustin, on peut dire encore qu'en se rendant comme en secret à cette fête, Jésus a voulu nous donner une leçon mystérieuse. Toutes les lois et les prescriptions imposées au peuple ancien, et par conséquent la fête des tabernacles, était la figure des choses futures. Or tout ce qui était pour eux figure est devenu pour nous une réalité. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, on annonçait un Christ à venir. Avec l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ va arriver parmi nous. Et donc on passe de la puissance à l'acte. Donc l'Ancien Testament annonce l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par leur foi en un Christ à venir, et que par le mystère de l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ va être parmi nous pendant 34 ans pratiquement, puisqu'il est arrivé parmi nous 9 mois avant sa naissance à Bethléem, il est arrivé parmi nous le jour de la fête de la fête de l'Annonciation, donc de l'incarnation, le jour où il s'est fait homme 9 mois avant son arrivée à l'extérieur du corps de la Très Sainte Vierge Marie, le jour de la fête de Noël, donc 9 mois auparavant, au moment où la Très Sainte Vierge Marie a donné son fiat à l'ange Gabriel, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé parmi nous, donc il va rester dans la pratique 9 mois dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie, puis 30 ans de vie privée, 3 ans et demi de vie publique, en tout ça fait 34 ans à peu près. Alors ici une belle figure des pères. Jésus se rend donc à cette fête, donc il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ va aller à cette fête, c'est au verset 10. Il se rend à la fête des tabernacles, mais comme en secret. Bon, de façon discrète, si vous voulez. Et Jésus se rend donc à cette fête comme en secret pour figurer qu'il demeurait comme voilé. C'est-à-dire que sa divinité est cachée par son humanité. Il y a certaines circonstances de sa vie où il va manifester cette divinité, ce qu'on appelle les théophanies. Bon, par exemple, une des théophanies, c'est la théophanie au moment où il va se manifester par ses miracles. Par exemple, à Cana de Galilée, c'est une théophanie. Autre théophanie, quand il est baptisé par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. On entend une voix, Dieu le Père qui parle, celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis une complaisance, écoutez-le. Une colombe vient voler sur sa tête, c'est une théophanie, une manifestation de cette divinité. Il y a aussi cette théophanie magnifique des rois mages qui viennent offrir l'or, l'encens, la myrrhe à l'homme, l'encens à Dieu et l'or au roi. Mais le fait qu'ils ont offert l'encens montre bien qu'ils croyaient à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve encore une autre théophanie qui est peut-être la plus belle de toutes, au moment de la transfiguration. Deux transfigurations, vraisemblablement. Donc, transfiguration, notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler une partie de sa divinité. Et encore une fois, là, d'un seul coup, les apôtres ébahis, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean vont être précipités la face contre terre. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, mais en même temps, ils ont une véritable panique, parce que les anciens avaient cette expression, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc, ils pensaient qu'ils allaient mourir immédiatement. Non, ils ne sont pas morts, mais Dieu leur a dévoilé une toute petite partie de sa divinité. Donc, encore une fois, sa divinité est voilée ici-bas. Les anciens voyaient, donc les apôtres et les disciples voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons que pour nous, c'est encore plus compliqué, encore plus difficile, parce que pour nous, non seulement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est voilée, mais également son humanité. L'humanité étant notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, lorsque vous assistez à la Sainte Messe, notre Seigneur Jésus-Christ vient, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ qui a parlé avec les disciples et les apôtres, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ici au chapitre 7 de Saint Jean, mais notre Seigneur Jésus-Christ qui nous apparaît sur la patène, sur le corporal pendant la Sainte Messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui voile et sa divinité et son humanité. On voit que une hostie, et il faut la foi pour savoir que la substance du pain a disparu, et que c'est la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement, joint à l'âme, au sang, à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ à cause du sacrement, par concomitance. Donc, au jour même de la fête, le sauveur demeura caché parce que ce jour de fête figurait l'exil des membres de Jésus-Christ. N'est-ce pas en effet habiter comme dans des temples que de regarder cette vie comme un pèlerinage et un exil? Oh, la skénopégite, la fête des tabernacles ou la fête des temples. Ça rappelait justement ce long passage des Hébreux dans le désert où ils étaient sous la tente. Il n'y avait pas encore de terre promise. Pendant 40 ans, à cause de la révolte continuelle contre l'autorité de Moïse et contre notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait par Moïse, hein, eh bien, à cause de ça, ils vont passer 40 ans dans le désert, et tous ceux qui ont quitté la terre d'Égypte vont tous mourir dans le désert, sauf Josué et Caleb. Tous les autres vont mourir. Tous ceux qui ont quitté, qui avaient vécu en Égypte, vont mourir, sauf Josué et Caleb. Même Moïse, encore une fois, ne va pas voir la terre promise, ne va pas y pénétrer. Il va la voir de loin, Dieu va la lui montrer de loin, mais il ne va pas y pénétrer. Ça nous montre justement que notre vie ici-bas est un pèlerinage temporel qui nous amène à la porte du ciel, mais on ne peut pas y aller ici-bas. Cette terre promise des Hébreux, la terre de Palestine, représente une autre terre promise pour nous, ça représente le ciel. Donc de même que les Juifs vont devoir passer 40 ans dans le désert avant de pouvoir atteindre la terre promise, après la traversée du Jourdain, la chute des murs, des murailles de Jéricho, bien de la même façon, nous, il va falloir attendre avant de rejoindre la terre promise qui est le ciel, il va falloir attendre notre passage ici-bas sur la terre pendant un certain nombre d'années, ça peut aller jusqu'à une centaine d'années, et la purification au purgatoire après notre mort pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de bien se purifier ici-bas sur la terre. La phrase clé des pères, à mon avis, c'est celle-là. Jésus se rend à cette fête comme en secret pour figurer qu'il demeurait comme voilé. Notre Seigneur cache sa divinité. Et on voit très bien qu'il cache ici non seulement sa divinité, ici-bas, et son humanité, mais il cache même les conséquences de sa divinité. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Vous voyez, imaginez un peu Sainte Jeanne d'Arc. Hein? 1412-1431, une sainte magnifique, c'est vraiment une des plus grandes saintes de tous les temps. Sainte Jeanne d'Arc, qui, imaginez ce qu'elle a dû penser alors que elle était attachée sur la place du un poteau sur la place du marché à Rouen, et que les flammes commençaient à la brûler. Et pourtant, il m'est apparu. Pourtant, elle n'a pas une seule seconde, même à ce moment de sa finale de sa vie terrestre, pas une seule seconde, elle a mis en doute les voies qu'elle avait eues de Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel. Elle savait qu'elle a fait la volonté de son Père, de son Père du ciel, et qu'elle avait rempli son devoir sur la terre. Et elle est passée directement des flammes de son martyr au paradis, dans la gloire du paradis. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'a pu s'accomplir sa deuxième mission. Sainte Jeanne d'Arc avait eu deux missions. Première mission, faire consacrer à Reims le dauphin, le prince Charles, pour qu'il devienne le futur Charles VII. Et deuxième mission de Saint Jeanne d'Arc, bouter les Anglais hors de France. La première mission a été remplie du temps de la vie terrestre de Saint Jeanne d'Arc, puisqu'elle a obtenu la consécration à Reims du dauphin. Mais la deuxième mission, elle ne l'a pas vue. Elle l'a vue de haut du ciel. Et en fait, juste après la mort de Sainte-Jeanne d'Arc, la mort victorieuse de Sainte-Jeanne d'Arc dans les flammes du bûcher de Rouen, à ce moment-là, les Anglais, sans aucune raison militaire, alors qu'ils avaient gagné tout, ils avaient mis dans leur poche cochon l'infâme évêque de Beauvais et tous ses petits copains, ils avaient remporté la victoire juridique, la victoire en fait pratiquement militaire, et ils auraient pu occuper la France entière. Et à ce moment-là, ils sont aperçus, ils ont réalisé qu'ils avaient volé une sainte, et ils ont pris leur bateau et ils sont rentrés en Angleterre. La France a été sauvée du protestantisme. N'oublions pas qu'en 1531, on est 90 ans avant l'hérésie de Luther. 90 ans plus tard, c'est 1521, c'est Luther. Et donc l'apostasie d'Angleterre, l'apostasie du roi Henri VIII, qui va introduire le protestantisme en Angleterre, sans le martyr de Sainte-Jeanne d'Arc, nous serions tous protestants en France. Donc nous aussi, nous sommes ici en pèlerinage sur la terre, nous sommes sous des tentes, sous des tabernacles, des tentes ici-bas, pour nous rappeler, une tente par définition, qu'est-ce que ça veut dire une tente? Une tente par définition, quelque chose qui se démonte, qui se monte et qui se démonte. Donc quand on est sous tente, par définition, en esprit, ça veut dire qu'on est dans un endroit dans lequel on ne va pas rester. Et donc il faut pouvoir démonter rapidement cette tente. On est des nomades ici-bas sur la terre, on n'est pas fixé comme sur une maison en dur. On a creusé des fondations, on a monté les murs, on a monté le toit, on a fait une maison en dur parce qu'on a l'intention d'y rester. Par contre, quand on est sous la tente, on sait qu'on peut partir n'importe quand. Mais c'est l'image d'un pèlerinage terrestre. On est ici en pèlerinage. Il nous faut regarder cette vie comme un pèlerinage et un exil, ce que disent ici les pères. N'est-ce pas en effet habiter comme dans des tentes que de regarder cette vie comme un pèlerinage et un exil? Donc cette fête à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous convie, donc il cherchait notre Seigneur Jésus-Christ pendant la fête, verset 11, cette fête rappelle que nous sommes sous des tentes, donc nous sommes en exil. Chapitre 7 de Saint Jean, versets 14 et 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les lettres, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura au sujet de ma doctrine si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, il n'y a pas d'injustice en lui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ donc, manifeste indirectement sa divinité en enseignant des choses qu'il n'a jamais étudiées sur le plan humain. Les Juifs l'ont bien vu. Comment cet homme peut-il connaître les lettres alors qu'il n'a pas étudié? Et notre Seigneur Jésus-Christ leur montre bien cette origine divine de sa doctrine. Cette doctrine n'est pas de moi, de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu le Père. En un mot, voici ce que le Sauveur a voulu dire. Ma doctrine n'est pas de moi. On retrouve les mêmes idées qu'on a déjà expliquées avant avec les Pères. Notre patrie est sur les hauteurs, le chemin qui nous y conduit est humble. Jésus veut, au contraire, par l'humilité, frayer le chemin qui conduit à la gloire. Donc, il leur dit donc, mon temps, c'est-à-dire le temps de ma gloire, où je viendrai juger le monde avec majesté, n'est pas encore venu, mais votre temps, c'est-à-dire le temps de la gloire du monde, est toujours prêt. Oui, on retrouve bien ici cette même dualité entre les deux temps, le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le temps du monde, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit du monde, et ici la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine du monde. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine de la pauvreté, la société, l'obéissance, du conseil évangélique, alors que la doctrine du monde, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, en un mot, voici ce que le Sauveur a voulu dire. Ma doctrine n'est pas de moi. Ce qui revient à cette proposition, je ne viens pas de moi-même. Ces paroles renversent l'hérésie des Sabelliens qui ont osé avancer que le Fils était le même que le Père et qu'il y avait deux noms pour exprimer une seule chose. Donc, le Sabellianisme détruisait évidemment le mystère de la Sainte Trinité. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit « Ma doctrine n'est pas de moi », on voit très bien ici la manifestation de la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, la double intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. « Ma doctrine n'est pas de moi », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a en lui une partie humaine. Donc cette doctrine qu'il enseigne ne vient pas de sa partie humaine, vient de sa partie divine parce qu'il est aussi Dieu. Donc en tant qu'homme, il est soumis à Dieu, en tant que Dieu, il est l'égal de Dieu le Père, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne, est la seconde personne de la Sainte Trinité. De même encore, connaître, c'est comprendre. Là, c'est une belle phrase, je crois, c'est de Saint Augustin. Ne cherchez donc pas à comprendre pour arriver à la foi, mais commencez par croire pour arriver à l'intelligence. Car si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Donc il faut d'abord ouvrir son intelligence à Dieu par un acte de foi, et cet acte de foi entraînera que Dieu va illuminer notre intelligence pour nous faire comprendre des choses que nous ne pourrons pas comprendre tant que nous n'avons pas élicité cet acte de foi. Commencez par croire pour arriver à l'intelligence. Le monde moderne fait l'inverse. Il veut bien croire en Dieu à condition de comprendre. Mais on ne veut pas comprendre sans la foi. Comment voulez-vous comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie? Quand on a devant nous des païens, on essaie de leur expliquer, voilà, dans cette boîte qu'on appelle un tabernacle, il y a les hosties consacrées, notre Seigneur Jésus-Christ, et là, son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est pour ça qu'on se met à genoux devant, par une génuflexion, pour manifester notre adoration. Et on dit, mais on veut le voir, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hosties blanches. Et c'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ, mais si je les mets dans le feu, elles vont brûler. Et donc la matière va disparaître. Donc c'est ça votre Dieu? Et bien, c'est là où il faut la foi pour croire notre Seigneur Jésus-Christ est là. Vous allez me dire, mais à ce moment, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne manifeste-t-il pas sa divinité justement par un grand miracle tout de suite? Ce serait bien plus simple. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ veut travailler avec notre foi. Donc il faut vraiment méditer cette phrase de saint Augustin. Ne cherchez donc pas à comprendre pour arriver à la foi. Commencez par croire pour arriver à l'intelligence. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Donc il faut éliciter un acte de foi, et pour éliciter cet acte de foi, ne serait-ce que pour dire du fond du cœur, moi je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper, pour éliciter du fond du cœur cet acte de foi, il faut déjà, attention, une grâce de Dieu. On ne peut pas même initier en nous la foi catholique sans une grâce actuelle de Dieu. C'est impossible, même si j'ai pas le baptême. Pour arriver, prenez le cas d'un athée, d'un païen qui demande le baptême, c'est déjà un acte de foi que de demander le baptême. Quand un jeune vient me voir, me dit « Monsieur l'abbé, je demande le baptême », ça correspond déjà à une grâce particulière. C'est pas la grâce sanctifiante, pas encore. C'est une grâce positive, une grâce actuelle qui amène à la grâce sanctifiante. On continue. Donc, le verset 19 à 24 du chapitre 7 de Saint Jean, page 13 et 14. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous n'accomplit la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, vous êtes possédé du démon. Qui est-ce qui cherche à vous faire mourir? Jésus leur répliqua et dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Cependant, Moïse vous a donné la circoncision, quoiqu'elle ne vienne pas de Moïse mais des patriarches, et vous pratiquez la circoncision le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Alors, ici, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Saint Jean, parle de la circoncision. Donc, rappelez-vous que les Juifs de l'Ancien Testament n'étaient pas sauvés par les sacrements, puisque les sacrements n'existaient pas encore. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va instituer les sacrements. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'étant pas encore venu ici-bas sur la terre, les sacrements n'avaient pas été institués, il n'y avait donc pas l'obligation du baptême pour être sauvé. Et donc, les Juifs de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi en un Dieu à venir, la foi en Messie qui allait un jour venir. Donc tout ce long processus de 7000 ans à peu près de l'Ancien Testament, depuis l'arrivée d'Adam et Ève sur la terre par la création divine, création de Dieu qui crée de rien Adam et Ève, donc 7000 ans d'attente pour préparer les Juifs à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les grands saints, il y a eu des très très grands saints dans l'Ancien Testament dont on parle sans doute pas assez, leurs noms sont dans le martyrologe. Dans le martyrologe, vous avez la fête de Saint Abraham, il n'y a pas très longtemps, on a eu la fête d'un des petits prophètes, je ne sais plus si c'était le prophète Amos ou le prophète Joël, je ne m'en rappelle plus, donc qui était annoncé dans le martyrologe. Donc, ce sont des très grands saints, bien qu'ils ne soient pas fêtés publiquement dans l'Église catholique, dans le sens qu'il n'y a pas de fête de saints de l'Ancien Testament dans l'Église catholique. Mais, cependant, il y avait des très grands saints dans l'histoire de l'Ancien Testament, et ces grands saints de l'histoire de l'Ancien Testament se sont sanctifiés par leur foi en un Dieu à venir, en incarnation de Dieu à venir, la foi du Messie à venir. Et ils avaient, pour manifester cette foi au Messie à venir, ils avaient toute une série de rituels de purification, l'un d'entre eux pour les hommes étant le rituel de la circoncision. Bon, il y avait tous ces rituels de purification aussi pour les femmes en couche, au sortir de leur couche, toutes ces purifications rituelles avant les repas, etc., qui étaient des petits actes d'humilité qui manifestaient la foi au Messie à venir. Donc, la circoncision, disent les pères, a été établie pour trois raisons. La première, pour être un signe de la grande foi d'Abraham. Donc, c'est Abraham qui va commencer à faire pratiquer la circoncision sur tous les gens de sa famille et toute sa tribu. Deuxième raison pour laquelle la circoncision a été établie, pour être un signe distinctif entre les Juifs et les autres nations. Donc seuls les Juifs étaient circoncis. Troisième raison pour laquelle la circoncision a été établie, afin que la circoncision qui était faite sur l'organe de la virilité rappelât l'obligation d'observer la chasteté du corps et de l'âme. Donc la circoncision du corps était un symbole de la circoncision de l'âme. La circoncision du corps, qui était un signe distinctif qui séparait les Juifs des autres nations, représentait une autre circoncision bien plus grande, mais qui, elle, était invisible, la circoncision de l'âme. Donc la chasteté de l'âme, la chasteté du corps ne vaut rien sans la chasteté de l'âme. La circoncision du corps ne vaut rien sans la circoncision de l'âme. C'est pas parce que quelqu'un était circoncis que ça voulait dire qu'il était sauvé. La circoncision était un acte de foi, justement, au Dieu qui avait ordonné la circoncision. Donc la circoncision, disent les pères, c'est l'enseignement de l'Église catholique, confère alors la même gloire, la même grâce que le baptême confère aujourd'hui, avec cette différence que la porte du ciel n'était pas encore ouverte. La porte du ciel ne sera ouverte qu'avec, strictement parlant, la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ au jour de l'Ascension, c'est-à-dire 40 jours après Pâques. Cependant, on peut déjà dire que la porte du ciel est déjà en quelque sorte entrouverte au moment où notre Seigneur Jésus-Christ, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est descendue aux enfers. Il est descendu aux enfers, dit le credo, c'est-à-dire après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint à 3h de l'après-midi, il y a séparation entre son corps et son âme, puisqu'il est vraiment mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme est mort, et son âme va descendre aux enfers. Et il va rester dans les enfers, ça n'a rien à voir avec l'enfer des damnés, c'est les enfers, c'était cette chambre d'attente, si vous voulez, cette salle d'attente de tous les justes de l'Ancien Testament, qui étaient morts au cours de 7000 ans de l'Ancien Testament, et qui attendaient de pouvoir monter au ciel. Les portes du ciel étant refermées à cause de la prévarication du péché d'Adam et Ève. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va descendre, non pas avec son corps, mais avec son âme. Il va descendre dans ce lieu qu'on appelle les enfers, l'enfer des patriarches, c'est-à-dire en fait, c'est un mot un peu difficile à comprendre, parce que c'est le même mot qu'on utilise pour l'enfer des damnés. En général, en français, l'enfer des damnés au singulier représente l'enfer, le lieu des démons, et les enfers représentent justement ce lieu qui a maintenant disparu de cette salle d'attente pour les justes de l'Ancien Testament. Et là, par sa présence divine, par son âme, qui est toujours unie à sa divinité, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, attention, est unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, de même que le corps qui est resté dans la tombe pendant les 36 heures depuis le vendredi, le saint, 3 heures d'après-midi jusqu'au jour de Pâques, le matin de Pâques, très tôt lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, le corps était aussi dans le tombeau uni à la divinité. Bon. Mais l'âme unie à la divinité, en descendant dans les enfers, c'est-à-dire le paradis des patriarches de l'Ancien Testament, la salle d'attente de l'Ancien Testament, va transformer déjà, d'une certaine façon, au moins provisoirement, ce lieu en paradis. Donc, je répète cette phrase, la circoncision conférait alors la même grâce que le baptême confère aujourd'hui, et que c'est différent parce que la porte du ciel n'était pas encore ouverte. Peut-être encore, cette circoncision, disent les pères, était la figure du Seigneur, car qu'est-ce que la circoncision, sinon le dépouillement de la chair? Encore une fois, la circoncision du corps ne voulait rien dire sans la circoncision de la terre. Circoncision du corps, c'était une intervention physique sur l'organe de la virilité pour, dans un acte d'obéissance à la loi divine. Mais représentait la circoncision de l'esprit, c'est-à-dire la vertu d'humilité, la vertu d'obéissance, la vertu de chasteté, toutes ces vertus appelées passives qui sont tellement méprisées par le monde moderne. Donc sans humilité, sans esprit d'obéissance, bien personne ne peut entrer au paradis. Donc cette circoncision représentait le dépouillement de la chair, le dépouillement de la volonté propre. Elle signifiait donc que le cœur était dépouillé de toutes les convoitises charnelles, et ce n'est pas sans raison que la circoncision était opérée sur le membre qui sert à la génération, car c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Donc il était évident, c'est un petit détail, mais j'insiste là-dessus parce que je me suis aperçu, aux États-Unis c'était terrible parce que c'était un peu la coutume sur un plan médical, beaucoup de médecins qui faisaient les accouchements dans les hôpitaux américains, dans bien des cas systématiquement circoncisaient les enfants, même s'ils n'étaient pas juifs. Et j'ai dû dire plusieurs fois, mais j'ai dit attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. Absolument pas le droit de faire ça, parce que la circoncision est un rituel purement juif, qui est absolument interdit pour un catholique. Un catholique n'a pas le droit de faire circoncire ses enfants parce que c'est un rituel d'une religion qui est aujourd'hui une fausse religion, même si la religion juive était la véritable religion, tout à fait au début, avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrivât pour instituer la véritable, pour changer la religion juive en la nouvelle religion du nouveau peuple élu, à savoir le peuple du Nouveau Testament, le peuple catholique. Tout homme donc naît avec le prépuce de sa chair, parce qu'il naît avec le vice qu'il tire de son origine, et c'est par Jésus-Christ seul que Dieu le purifie, soit de ce vice originel, soit de ceux qu'il ajoute volontairement par une vie criminelle, c'est-à-dire soit de ce vice originel, c'est-à-dire la circoncision des Hébreux, des Juifs, enlevait le péché originel, hein, mais en même temps devait être enlevé pas simplement le vice originel, mais les vices qui s'ajoutent volontairement par une vie criminelle, c'est-à-dire les péchés actuels, tous les péchés actuels. De même que le baptême ne se contente pas d'enlever le péché originel, bon, il n'enlève que le péché originel pour un bébé, qui n'a pas d'autre péché que le péché originel, mais quand je baptise un adulte, le prêtre, par le baptême, Dieu va permettre que tous les péchés disparaissent, et non seulement les péchés disparaissent, mais les peines temporelles des péchés vont disparaître. C'est pour ça que lorsque ça arrive souvent que quand je baptise un adulte, je le prépare au baptême et il me dit, vous savez, moi je voudrais bien me confesser avant le baptême. Je dis toujours, vous pouvez faire une confession de dévotion si vous voulez, mais vous ne pouvez pas recevoir l'absolution avant le cas de baptême, parce que vous n'êtes pas baptisé, l'absolution serait absolument invalide. Donc, mais par contre, vous pouvez faire une dévotion de complaisance, une confession symbolique si vous voulez, mais vous n'êtes pas tenu du tout. Vous n'êtes pas tenu du tout, puisque le baptême, au moment où l'eau purifiante du baptême va couler sur votre front, au moment où le prêtre va dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », à cet instant précis, tous vos péchés vont disparaître, pas simplement le péché originel, mais tous les péchés actuels. « Donc, la circoncision s'opérait des couteaux de pierre, et la pierre est la figure de Jésus-Christ. La pierre était le Christ. Rappelez-vous, Moïse qui frappe avec son bâton la pierre en plein désert pour en faire sortir l'eau sanctifiante, ça représentait le baptême. La circoncision avait lieu le huitième jour, parce que c'est après le septième jour de la semaine que notre Seigneur est ressuscité le dimanche. C'est cette même résurrection qui nous circoncise, c'est-à-dire qui nous dépouille de tous les désirs charnels. Comprenez donc que cette circoncision était la figure de cette bonne œuvre par laquelle j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Je l'ai guéri pour rendre la santé à son corps, et sa foi lui a procuré la santé de l'âme. La circoncision de la chair doit donc marquer la circoncision de l'âme pour en enlever le péché originel et le revêtir de grâce et de justice. Vous voyez, c'est une phrase très claire. La circoncision du membre viril doit représenter une circoncision de l'âme, c'est-à-dire la circoncision de la volonté propre, pour enlever non seulement le péché originel, mais pouvoir enlever tous les péchés actuels. Quelqu'un qui n'a pas le désir de circoncire sa volonté propre ne peut pas être baptisé. Donc le baptême actuellement, le sacrement de baptême remplace évidemment la circoncision et donne en plus le caractère du sacrement de baptême, c'est-à-dire l'illumination par la vertu de charité de cette âme qui est lavée par les eaux du baptême. Donc la circoncision représente le dépouillement de tous les désirs charnels. Donc c'est avant la circoncision, l'âme est sous le contrôle des trois concupiscences, de la chair, de l'orgueil et des yeux. Et après le baptême, l'âme est illuminée par la vertu de charité, et avec elle, par toutes les vertus qui couronnent la charité, qui sont ce qu'on appelle la couronne de la charité, à savoir la vertu de l'obéissance contre la concupiscence de la chair, la vertu de pauvreté contre la concupiscence des yeux, et la vertu de chasteté contre la concupiscence de la chair. Voilà, donc je vais arrêter là, puisque ça fait déjà une heure que je vous parle. Dieu aidant, je continuerai dans une semaine à vous donner, à préparer un autre cours. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.